Vous écoutez RTL.
Bonjour, nos plus belles histoires d'amour sur RTL. Comme tous les week-ends de l'été, nous allons partager ensemble la destinée d'hommes et de femmes que le hasard a un jour mis sur une même route, qui se sont aimés toute une vie ou quelques semaines, en secret ou dans les pages des magazines. Une passion brûlante qui les a parfois consumés, mais qui aura à jamais marqué leurs existences et aussi les nôtres, comme dans un miroir où l'on continue à les regarder. Aujourd'hui, pendant une heure, je vous invite à suivre le couple le plus romantique et le plus moderne de la pop française, quatre mains sur un piano blanc, pour une déclaration qui fait toujours battre les cœurs.
Nos plus belles histoires d'amour. Jean-Alphonse Richard.
Nous sommes en 1973 et une petite blonde roule au volant de son Austin Mini sous la fine pluie du mois de mars. Elle écoute les derniers tubes du moment quand l'autoradio diffuse soudain une voix chaude sur quelques notes de piano.
Laisse faire le temps, laisse-lui le choix. Et si tu m'oublies.
Son regard va alors se perdre longtemps dans le va-et-vient des essuie-glaces. Elle va finir par s'arrêter sur le bas-côté de la route pour écouter jusqu'au bout la mélodie. Puis c'est le chanteur qu'elle va décider d'appeler dès que la pluie aura cessé. Ainsi est née la légende France Gall Michel Berger. Peu importe que l'histoire soit vraie ou fausse, c'est bien au détour d'une chanson que tout a commencé.
Attends-moi, laisse le silence pénétrer en toi.
Attends-moi est une mélodie prémonitoire. Elle figure sur un album qui porte pour la première fois le nom de Michel Berger. Sur la pochette, qu'il a lui-même imaginée, figure un cœur rouge sur fond blanc coupé en deux par un point d'interrogation avec ce titre « Cœur brisé ». Elle ne se doute pas alors à quel point ce cœur brisé est celui qui bat dans la poitrine du chanteur. Michel Berger et France Gall se sont déjà croisés dans les couloirs de studios d'enregistrement et de maisons de disques. Rencontre fugitive, sans lendemain. Cette fois, ils se font face à face. Ils ont à quelques mois près le même âge, 26 ans, et pourtant tous deux sont déjà de jeunes vétérans de la chanson française. France, grandie dans une famille d'artistes bohèmes, avait 17 ans quand son père lui a écrit « Sacré Charlemagne ». La ritournelle, bon enfant, qu'elle déteste et entonne à contre-cœur, entre immédiatement au panthéon de la chanson populaire.
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ?
Elle va la suivre longtemps, plus de 2 millions d'exemplaires vendus. Quelques mois plus tard, façonnée par Gainsbourg, elle remporte l'Eurovision pour le Luxembourg avec Poupée de cire, Poupée de son. Les sucettes, encore signées Gainsbourg puis Bébé Requin, achèvent de la transformer en ingénue Lolita, éternelle écolière qui plaît beaucoup aux vieux messieurs.
J'ai chanté des choses qui correspondaient à mon âge. À 16 ans, je chantais des chansons pour les enfants et des chansons qui étaient moi. Mmh. Et puis après, bon, Gainsbourg a complètement fantasmé. et puis il y a eu un trou noir.
La machine à succès France Gall s'est emballée dans les années 60, puis s'est peu à peu enrayée. On a presque oublié la chanteuse qui, en ce début des années 70, n'est plus vraiment à l'avant-scène. Négligée par les auteurs qui ne lui présentent que de mauvais textes, snobée par les producteurs qui préfèrent du neuf, transformée en un météore appelé à doucement disparaître dans la grande nuit du spectacle. Michel Berger. Lui aussi est un enfant prodige de la chanson française. Le fils de l'éminent et austère professeur de médecine Jean Amburger a grandi à Paris dans un appartement bourgeois entre une gouvernante et deux pianos encastrés dans un mur. Son père rêvait de longues études de médecine pour ce garçon rêveur et maladroit, mais dès l'âge de 15 ans, il s'est laissé dévorer par la musique.
Image d'un petit peu, d'un type de bonne famille et tout ça, et j'ai au contraire cassé très vite ma vie pour essayer d'en faire autre chose. Ce qui est merveilleux avec l'expression artistique, avec la musique ou la peinture, c'est que les gens qui en font ne pensent plus du tout à d'où ils viennent, ils pensent à ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, et ça c'est vraiment fort, ça les réunit. Je trouve que c'est le contraire de la politique, ça réunit les gens au lieu de les diviser.
Il s'est lancé dans le yéyé et s'est vite fait remarquer par les radios.
J'ai fait un 45 tours avec un ami de classe qui faisait mes paroles. Et puis un autre ami qui était dans la même classe qui jouait de la guitare.
Oui, l'école vous a servi à quelque chose.
Ouais, il a fait l'ENA depuis, alors évidemment c'est autre chose. Puis après j'ai commencé à faire des chansons pour les... J'ai fait une chanson pour Bourville, enfin j'ai fait des choses qui n'avaient absolument rien à voir avec ce que je fais maintenant. J'ai commencé à faire vraiment de la musique, j'ai vécu avec mes chansons à partir de 15 ans quand même.
À coup sûr, ce Michel Berger est un nouveau talent de la scène française. Il s'amuse sur des airs de R&B, passe sur la scène de l'Olympia au milieu d'autres espoirs, signe quelques titres éphémères. Il figure même sur la photo historique du numéro 100 de Salut les copains avec Johnny, Françoise Hardy et même France Gall. Puis à 19 ans, sans prévenir, il a décidé d'arrêter sa prometteuse carrière de chanteur. Mai 68 a rebattu toutes les cartes et Berger, qui vient de passer sa maîtrise de philo sur Jimi Hendrix, sait que la musique n'a pas échappé à la fureur du temps. Après avoir chanté, il va donc imaginer pour les autres. Écrire, composer, dessiner des pochettes et bâtir des spectacles.
C'est un beaucoup plus gros travail d'écrire pour quelqu'un d'autre. Il faut se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, dire les choses peut-être un petit peu comme cette personne les dirait, pas comme on les dirait soi. Et c'est plus difficile.
Le voilà derrière le rideau, avec son profil de premier de la classe, regard sage, chemise blanche bien boutonnée, goûter apporté à la maison de production par maman, il ne cadre pas avec les codes du showbiz et de la production. Mais comme Gainsbourg, il se sent pour les filles une âme de Pygmalion. D'ailleurs, il a déjà trouvé sa Galatée. Elle s'appelle Véronique Sanson. Tout son contraire. Elle fume, boit, fait la fête et ne vit que la nuit. Cette blonde éruptive qui aime éclater de rire alors qu'il cultive une raideur méfiante est pourtant son double parfait. Toujours ensemble, pour écrire, composer, s'enfermer en studio, s'aimer et rêver à leur avenir.
Il y a deux, trois choses qui sont très importantes. La musique, c'est quelque chose qui est très important dans ma vie. Et puis... l'amour.
Nous étions le miroir l'un de l'autre. Ce que j'écrivais, il aurait pu l'écrire. Et inversement, dit Véronique. À l'époque, même un expert graphologue n'aurait pas pu distinguer leurs écritures. Jamais couple n'aura été aussi fusionnel. Deux cœurs battant à un même rythme. En cette année 1972, il lui offre un album qui va révolutionner la pop française. La voix de Véronique Sanson résonne pour la première fois comme dans une cathédrale. Avec Amoureuse, la chanteuse connaît la célébrité. Michel Berger gagne, lui, sa notoriété. C'est donc le créateur d'Amoureuse que France Gall vient rencontrer. Michel reste poli mais n'a aucune envie d'écrire pour elle. Pour lui, elle reste la fille qui a chanté Sacré Charlemagne.
Nous avons fait une émission de radio ensemble. Et voilà, elle m'a dit qu'elle aimerait bien me faire écouter des chansons qu'on avait faites pour elle. Elle me les a fait écouter un peu plus tard et puis
je les ressentais pas très bien. Moi, je trouvais qu'elle avait une évolution de carrière. C'est un mot que je déteste, mais qui dit bien ce qu'il veut dire. Qui était trop loin de moi, parce qu'elle chantait des chansons, elle chantait beaucoup de chansons pour enfants, et enfin, moi j'avais une conception de la chanson très très lointaine de ce qu'elle chantait. Moi j'avais pas du tout envie d'écrire pour d'autres personnes, et je n'aime pas ça.
Michel n'a d'ailleurs plus le cœur à écrire pour qui que ce soit. Véronique est un jour sortie acheter des cigarettes et n'est jamais revenue. Partie avec le rocker américain Stephen Stills, qui se produisait à Paris. Son album, Cœur brisé, est bel et bien celui du chagrin. Une lettre d'amour désespérée et un appel à la compassion. Désormais, seul dans le grand appartement au mur blanc de la rue de Prony, où il allait s'installer avec Véronique, il hésite à secourir le bébé requin France Gall. Elle insiste et finit par le séduire, car elle lui demande ce jour-là bien plus que de la musique, l'impossible, la faire renaître. Il accepte, en se souvenant des paroles prémonitoires de son pote Serge Gainsbourg. « Chaque fois que je fais un disque, j'en vends 10 000. Quand j'en fais un pour France Gall, j'en vends 1 million. » Michel Berger va donc vite offrir à France Gall un incroyable joyau.
Nos plus belles histoires d'amour sur RTL.
Nous sommes en 1974. Il aura suffi de quelques semaines pour que France Gall gagne le cœur de Michel Berger. Elle ne lui a pas encore fait oublier Véronique Sanson, mais elle vient de lui sauver la vie. Avec France, les sables mouvants de la dépression s'éloignent. Il reprend pied. Derrière un piano, ils ont naturellement trouvé leur marque.
Elle a ramé, mais... Elle est arrivée finalement à ce qu'on fasse deux chansons ensemble.
Il compose, mais il se laisse désormais guider par cette petite blonde aux yeux noisettes qui lui plaît beaucoup et qu'il a décidé de relancer.
Et puis alors là, elle est venue chanter dans un disque à moi aussi. Et puis alors là, elle a très bien chanté. C'est donné beaucoup de mal.
« Je vais m'occuper de sa carrière », répète-t-il à ses amis, incrédule, mais fasciné par l'entente du couple. Et la ténacité de France. Elle a mis toutes ses économies pour l'enregistrement d'un premier 45 tours. Une chanson d'amour qui ressemble à une source d'eau fraîche.
Et puis après, on a fait la déclaration. Puis comme ça a très bien marché, que ça s'est merveilleusement passé, on a continué.
« Ma déclaration » se met rapidement à swinguer sur toutes les radios. Hymne pop de la jeunesse 74.
Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais tout bas une déclaration. Ma déclaration.
À plus de 100 000 exemplaires vendus au 31 octobre, la production avait promis un contrat de 5 ans à France Gall. C'est chose faite.
Ce qui est important, c'est que je fais le métier que j'aime et je réussis dans le métier que j'aime en faisant sans aucune concession pour la réussite ce que j'ai envie de faire. Et ça, c'est une chance extraordinaire.
La musique de Michel Berger vient de faire un miracle. Oubliez Bébé Requin. L'année suivante, pour son tout premier album en 12 ans de carrière, France Gall affiche son nouveau style sur la pochette. Plus de Lolita sexy, la fille qui va faire rêver les garçons de son âge porte une petite salopette à rayures et presque pas de maquillage. Michel Berger vient tout simplement de fabriquer la nouvelle France Gall. La plus belle des revanches pour celle qui, à ses débuts, était obligée de marcher à contresens, piégée par des chansons qui ne lui convenaient pas et qu'elle déteste, jamais prise au sérieux, moquée, parfois humiliée, marquée au fer rouge de la déception amoureuse. Comme en 1965, quand, après avoir remporté l'Eurovision à Naples, elle téléphone à l'homme qu'elle aime éperdument, Claude François. La réponse est brutale. « Je te quitte ». C'est en sanglots que France Gall remontera ce soir-là sur scène. Désormais, c'est avec Michel qu'elle construit sa toute nouvelle vie.
Au beau milieu de la foule.
Un impossible de les croiser l'un sans l'autre. Sur son piano, il ne travaille quasiment que pour elle. Elle réorganise l'existence de son maladroit professeur Tournesol, comme elle le surnomme. Elle s'occupe de l'intendance, ce qui permet à Michel de ne penser qu'à la musique.
Nous sommes toujours faits l'un pour l'autre. Je pense franchement qu'il ne trouvera pas de meilleur interprète que moi.
Ah bah bravo.
Il veut lui composer une comédie musicale baptisée Angelina Dumas, à partir d'une histoire vraie qui a défrayé la chronique, celle d'une petite fille riche, Patricia Hearst, kidnappée par des révolutionnaires et tombée amoureuse de ses geôliers. Le projet finira par se perdre. Mais pas les tubes, qui l'alignent pour France et qui grimpent systématiquement au hit parade de RTL, le juge de paix radiophonique du moment. Samba Mambo, si on pouvait vraiment parler, comment lui dire ? Comment lui dire aussi qu'elle doute parfois de ses sentiments réels ? Alors que le couple a voyagé en amoureux jusqu'à Los Angeles et qu'ils se sont tranquillement installés Villa Beau Séjour, l'ancien pavillon russe de l'exposition universelle de Paris, Michel a composé une chanson, a priori anodine. « Seras-tu là ?» est une demande de rendez-vous à une absente. Ceux qui le connaissent décryptent aussitôt ce message secret lancé comme une bouteille dans l'océan Atlantique pour parvenir à celle qui vit désormais là-bas. L'amour éternel de sa vie, Véronique Sanson. Elle lui répondra bientôt par une chanson « Je serai là » comme si des retrouvailles étaient toujours possibles. France fera comme si elle n'avait rien vu, rien entendu.
Seras-tu là ?
De toute façon, la spirale du succès balaie tous les nuages et fait du couple Berger-Gall l'un des plus glamour du moment. Ils fuient pourtant les magazines, ne veulent pas devenir les nouveaux Johnny et Sylvie ou Dutronc et Hardy. Ils cultivent une discrétion quasi obsessionnelle sur leur vie privée.
Il y a une demande d'images de couple, par exemple dans la presse et même dans la société française, énorme. Nous, on a voulu essayer de garder notre personnalité et notre indépendance, et je crois qu'on est beaucoup plus heureux comme ça. Avec l'équilibre du couple est nettement meilleur quand justement on ne fait pas tout ensemble. C'est bien de se retrouver de temps en temps, mais que ce ne soit pas systématique.
Jamais ensemble sur la même photo. Jusqu'à ce 22 mai 1976, et ce numéro 1 qui leur est consacré à la télé, réunis pour la première fois pour un premier duo.
Je suis née ici,
pas à Memphis.
Je suis de Paris,
pas de Paris.
J'ai jamais connu Cap Calloway.
L'image reste dans les mémoires de la variété française. France porte une casquette de poulbeau et Michel en costume de cirque bleu pervenche autour d'un piano recouvert de strass.
Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal.
Ça balance pas mal à Paris devient vite l'hymne joyeux d'une jeunesse qui tourne le dos au désespoir. Comment ne pas emboîter le pas à ces mélodies qui donnent à l'air du temps les couleurs de l'arc-en-ciel.
Ça balance aussi.
Pas mieux,
mais du nouveau,
c'est tout ce que je veux.
Ça balance pas mal pour Gall et Berger qui bientôt vont devenir des stars mondiales.
West Side Story,
c'est bien fini.
Les parapluies,
c'était joli.
Mais je veux faire quelque chose à moi.
Faudra travailler, mais pourquoi pas.
Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi.
Nos plus belles histoires d'amour. France Gall, Michel Berger.
En cette année 1976, et après 3 ans de vie commune, France Gall et Michel Berger ont décidé de se marier.
Je suis très heureuse d'être mariée.
Vous avez une alliance ?
Oui.
Absolument.
Il faut la montrer, voilà.
Non, c'est très bien, on vous croit sans parole. Pourquoi garder le secret, au fait ?
Parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui le mariage, pour les gens qui chantent, c'est plus important que les chansons qu'ils font. Et ça, c'est un petit peu dommage.
C'est le désir de séparer vie privée et vie professionnelle ?
Oui, c'est pas à tout prix se cacher, puisque à partir du moment où on chante, on fait quand même un métier public.
C'est de ne pas créer un événement.
Cérémonie souriante à la mairie du 16e arrondissement de Paris.
En apparence seulement, car Michel est plus tourmenté qu'il n'y paraît. Lui, qui depuis l'enfance vit de façon quasi fusionnelle avec sa famille, sait que France n'est pas chez lui la bienvenue. Le clan Hamburger surnomme avec mépris France Gall la saltimbanque ou la chanteuse. Ce fossé culturel tourmente profondément le compositeur, désormais mari de celle qui triomphe et décroche pour la première fois sa place de numéro 1 au hit parade de RTL avec Musique. Avec Gall et Berger, la France prend des airs d'éternelles vacances. C'est bientôt l'époque des plus belles naissances. Pauline, premier enfant du couple, voit le jour en 1978 à la maternité de Neuilly. Puis Michel dévoile son opéra rock Starmania avec son Johnny Roquefort, Daniel Balavoine, en voyou symphonique. « Quand on n'a plus rien à perdre », chante Balavoine. Ce serait presque la devise du couple, qui, malgré les succès qui s'enchaînent, veut toujours faire mieux et se mettre en danger. En cet été 1980, où tout un pays bronze sur les plages et fait la fête, il jouait du piano debout et la groupie du pianiste tourne en boucle dans les clubs. À Saint-Tropez, un vacancier pas comme les autres écoute lui aussi ses mélodies. Il a le sentiment qu'elles ont été écrites pour lui et son piano. Elton John, il se procure tous les albums de France Gall et continue à les écouter dans sa suite de l'hôtel Negresco à Nice. Quelque temps plus tard, le géant de la pop anglaise appelle ce couple qui l'intrigue.
Il avait voulu acheter le disque à Saint-Tropez, il ne l'avait pas trouvé parce qu'il était lui à Saint-Tropez. Il était parti à Cannes dans les encombrements, acheter les disques, il avait écouté, il avait beaucoup aimé, il connaissait déjà Michel depuis pas mal de temps. Et il me dit, je voudrais faire un disque avec vous, un album que Michel écrive et je voudrais le chanter en duo avec France. Ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le premier avion. Le lendemain, Michel a écrit une chanson dans la nuit et on est arrivé à Saint-Tropez dans sa maison. Là, il était dans une piscine.
Le rendez-vous a lieu dans la villa d'Eddie Barclay à Saint-Tropez. Le projet est tout à la fois gigantesque et inédit. Composer un album à quatre mains qui mêlerait l'anglais et le français.
Il faisait très chaud, très beau. On a été directement au piano. On a commencé à jouer la chanson, à lui apprendre. On l'a chanté tous les deux. On a regardé si nos voix collait bien, si le ton de la chanson collait bien. Et puis, on a décidé de se donner rendez-vous un mois plus tard.
Fin août, le couple se retrouve dans la chaleur de Beverly Hills, dans le légendaire Studio 1, qui a vu défiler les plus grandes gloires du rock et de la pop. L'histoire des enregistrements est généralement chaotique, mais France Gall et Michel Berger sont décidément assis sous une bonne étoile. En studio, Elton John et les Français échangent leurs mélodies. Les aveux, Reach Out of Me, et surtout, Donner pour donner. Le tube international propulse Gall Berger de la Chine aux États-Unis.
Je te donne mes espoirs.
Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, France donne naissance au mois d'avril 1981 au petit Raphaël.
La suite pourrait ressembler à un long fleuve tranquille, une vie idéale qui semble mise en scène pour les magazines, entre une maison à Saint-Tropez où toute une famille vient se reposer et une autre à Honfleur où Michel s'assoit derrière son piano blanc pour composer, alors que France répond aux courriers de ses fans et peint de petites aquarelles.
On a réussi à garder un petit équilibre dans le fait qu'on a chacun une personnalité, qu'on a des choses qui nous réunissent, bien sûr, mais aussi des univers qui ne sont pas toujours les mêmes. Et je crois que c'est une grande force pour la vie qu'on peut avoir ensemble. Parce que si on était entièrement mêlés, si on chantait ensemble, si on faisait toute notre vie professionnelle ensemble, je crois qu'on n'aurait plus grand-chose à se raconter et ce serait beaucoup plus difficile à vivre, sûrement.
Si on t'organise une vie bien dirigée.
Le pays a élu François Mitterrand et c'est comme si Résiste était le nouvel hymne du nouveau pouvoir.
Résiste.
Pourtant, c'est loin de Saint-Tropez et de la Normandie que Michel Berger cisèle son chef-d'œuvre. Face à la montagne Sainte-Victoire, il compose comme s'il posait des couleurs sur une partition.
Laisse s'accomplir la magie de ses mains, ses alpins.
On se dit que tout cela est trop beau, le bonheur trop parfait. Un couple qui fait tout pour la musique. Et tout pour l'amour.
Il me pousse toujours à aller de l'avant et c'est fantastique justement chez quelqu'un qui fait le même métier.
Vous jouez la concurrence d'un autre ?
Au contraire, de se pousser du coude, il me pousse comme ça en avant et moi aussi j'essaie de l'aider pour qu'il fasse le plus de choses possible. Aucune concurrence entre nous, pas de rapport de force.
Mais dans ce monde-là,
elle triomphe début 1982 au Palais des Sports où Michel a imaginé pour elle un extravagant spectacle à l'américaine avec des danseuses et une pléiade de musiciens. Le public est aux anges, les briquets brillent dans l'obscurité de la salle. Le spectacle à l'affiche pendant plus d'un mois est un succès retentissant. Il marque l'apogée du couple et sans le savoir, va signer aussi sa lente et invisible décomposition. Est-ce un signe ? Michel avait demandé à son frère adoré, Bernard, architecte, de travailler sur le show du Palais des Sports. Mais ce dernier, malade, éreinté par une sclérose en plaques, succombe alors que le spectacle bat son plein. Michel Berger avait laissé la malchance derrière lui. Elle vient de le rattraper de la plus cruelle des façons. Dès lors, insidieusement, le malheur va s'emparer du couple et c'est toute une existence qui va se dérégler.
Nos plus belles histoires d'amour sur RTL.
En cette année 1982, malgré le triomphe de France Gall au Palais des Sports, Michel Berger a du mal à faire le deuil de son frère Bernard. Avec France et les enfants, il part donc se reposer à la montagne quand la tragédie vient à nouveau s'inviter dans leur vie.
Je sais que je donne l'image de quelqu'un de comblé, effectivement, comme vous dites, puisque je réussis merveilleusement dans le métier que je fais, que je vis avec l'homme que j'aime et que j'ai deux enfants merveilleux et que je gagne de l'argent. Mais vous savez très bien que la vie, c'est pas aussi facile et que j'ai des gros soucis et que je n'en parle pas. Mais quand je dis des gros soucis, les vrais soucis, je les ai, je vis avec, seulement j'en parle pas, c'est tout.
La petite Pauline n'a pas encore 4 ans et tousse de façon anormale. Le diagnostic des médecins est rapide, mucoviscidose, une maladie génétique qui emprisonne peu à peu les systèmes respiratoires et digestifs. En dehors des proches, personne ne sera informé de cette épreuve, mais désormais, rien ne sera plus tout à fait comme avant. Michel et France vont apprendre à se partager la lumière. Toujours l'un des deux auprès de Pauline. On les retrouve tout de même ensemble en Afrique avec Action École et l'ami Daniel Balavoine. Au Mali, où le prénom de notre enfant se transforme en chanson. Michel
se réfugie dans le travail, participe à l'interminable réécriture de son opéra Starmania. Les uns contre les autres, le titre lui va si bien. Lui qui a toujours le sentiment de se battre contre la terre entière et de soulever des montagnes pour avancer. La mort de Daniel Balavoine, avec qui le couple avait découvert l'Afrique, le balafre un peu plus.
Y a comme un goût amer en nous.
France rend hommage au chanteur au Zénith en 1987 avec cette chanson écrite pour Daniel.
Ces questions qui ne tiennent pas debout, évidemment.
En salopette noire et t-shirt rayé, elle tire, sans le dire, sa révérence. Elle sait déjà que, dans quelques semaines, alors que le succès n'a jamais été aussi facile, elle fera ses adieux définitifs à la scène pour s'occuper de Pauline, dont l'état de santé se dégrade peu à peu. Michel n'a désormais plus que ses deux mains pour jouer sur son piano blanc. Celles de France ne sont plus là. Puisqu'il ne compose plus beaucoup pour elle, il est libre pour les autres. Un soir, au cours d'un dîner, c'est une célébrité au creux de la vague qu'on lui présente. Johnny Hallyday semble presque timide face à Michel Berger à qui il demande d'écrire une chanson. Michel lui offre un album tout entier. Comme toujours, il va remodeler son interprète, en faire un routard placide et romantique de l'Amérique profonde.
On a tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit.
France aurait pu chanter quelque chose de Tennessee, mais elle n'en a plus envie. Le couple semble être parvenu au bord du précipice. On est toujours si près de se perdre, confie France au magazine Elle. Malgré ses fêlures et cette lassitude, et peut-être cette nouvelle conquête Béatrice que cacherait secrètement le chanteur, le couple veut sauver les apparences et s'accorde une dernière sortie. Un duo qui doit être suivi d'une longue tournée en France, puis à Dakar et en Chine. Michel s'éreinte sur ce projet empli de stress et de doutes. Double jeu sort le 12 juin 1992.
Cet album a une particularité, vous le chantez avec votre femme, avec France Gall. C'est quelque chose que vous aviez très envie de faire ?
Depuis longtemps, oui, depuis le début. Ça fait des années qu'on travaille ensemble et on chantait ensemble comme ça pour s'amuser dans les disques, mais jamais vraiment on avait sorti de chansons ensemble. On faisait les chœurs. Mais vous savez, la musique, c'est quelque chose qu'on aime faire ensemble avec les musiciens, c'est quelque chose qui rassemble.
Et vous la partagez pleinement avec France Gall ?
Oui, je crois que ça fait pas mal d'années qu'on travaille ensemble, j'écris pour elle, donc on a vraiment une conception de la musique qui se ressemble beaucoup, donc il n'y a pas eu d'effort du tout.
Alors c'est un album qui a une tonalité, enfin je vous dis ce que je pense, qui a une tonalité nostalgique, un peu sceptique même sur l'avenir.
Non, je crois pas. Moi, je crois pas que ce soit triste. Vous savez, moi, je trouve pas qu'on vive dans un monde triste. Je trouve qu'on vit dans un monde qui est très violent, mais très fort en même temps.
Concert, vous allez en faire un avec France
Gall?
Oui,
oui, tout à fait.
Quand?
On a très, très envie. On va laisser passer l'été, mais l'année prochaine, on a très envie d'essayer de faire ce disque sur scène.
Une seule apparition télé montre un couple diaphane et absent. Quelques jours plus tard, le 2 août, en plein soleil, Michel Berger s'écroule sur le court de tennis de sa maison de Saint-Tropez. Il va se relever, puis va de nouveau s'effondrer. Son cœur brisé s'arrête définitivement de battre dans la douceur d'une soirée d'été, dans les bras de France qui va longtemps crier son prénom. Michel Berger avait 44 ans, parti avec ces quelques mots d'amour que France Gall, désormais, gardera pour elle.
Il manque quelqu'un près de moi. Je me retourne, tout le monde est là. D'où vient ce sentiment bizarre que je suis seul? Parmi tous ses amis et ses filles qui ne veulent que quelques mots d'amour.
Nos plus belles histoires d'amour sur RTL, ça n'est pas fini. On reparle tout de suite de France Gall et de Michel Berger avec Yves Bigot, journaliste, qui a écrit le livre Référence sur Michel Berger.
Nos plus belles histoires d'amour. Jean-Alphonse Richard.
Yves Bigot, bonjour.
Bonjour.
Première question, France Gall et Michel Berger, c'est avant tout une histoire d'amour ou une histoire de musique?
C'est les deux. Et la musique et l'amour, ça va assez bien ensemble en général.
Vous êtes journaliste, hein, directeur de TV5 Monde, et vous êtes l'auteur de « Quelque chose en nous » de Michel Berger aux éditions Don Quichotte. Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec Michel Berger?
Écoutez, j'étais dans une radio concurrente de la vôtre, et j'y présentais une émission de rock tous les soirs de minuit à 2h du matin. Un soir, Michel et France étaient invités de l'émission qui me précédait, et ils sont venus me voir, j'étais donc dans le studio d'à côté, et juste avant que je prenne l'antenne, ils m'ont dit « Bonsoir, on vient se présenter, je m'appelle Michel, je m'appelle France, et on voulait te connaître parce qu'on écoute ton émission quasiment toutes les nuits, et puis d'une certaine façon, on a envie de se connaître. »
Alors c'est un peu deux oiseaux perdus là qui se retrouvent, hein, mais ça se passe pas très bien. Au début.
Ben, surtout, Michel n'a pas du tout envie de travailler pour France Gall. Il n'a pas du tout, en dehors des chansons de Gainsbourg qu'elle a interprétées, il n'a pas du tout aimé son répertoire. Il déteste en particulier Sacré Charlemagne, cette chanson qui a été une si
chanson
musicale.
Culte, hein. Voilà. Chanson populaire française.
Voilà, c'est ça. Mais que Michel, il déteste cette chanson, l'horripile. Et donc, il se dit, ben non, je ne vais pas écrire pour une fille qui chante des conneries comme ça. Donc, il n'a pas envie. C'est elle qui va être très insistante. Elle va lui faire livrer des petits déjeuners de chez Fauchon parce qu'il est installé, lui, rue de Prony, dans l'appartement qu'il avait pris pour vivre avec Véronique Sanson, mais où elle ne l'a jamais rejoint. Et donc, il est tout seul, il est en dépression. Ses amis, d'ailleurs, s'inquiètent hein, pour sa santé, même un peu pour sa vie, pour certains. Et donc, France voilà, s'assure qu'il ait au moins de quoi manger tous les matins. Et puis, donc, il va la tester, parce que lui n'est pas bien certain. Alors, il entend bien qu'elle sait chanter, mais voilà, c'est pas le genre qu'il aime. Donc il va la tester sur un morceau à lui qui s'appelle « Mon fils rira du rock'n'roll ».
Et mon fils rira du rock'n'roll. Nos amours seront ridicules. Dans le passé, juste du point. N'intéresseront plus personne. Mon fils rira du rock'n'roll.
Là, même s'il n'est pas totalement convaincu, il commence à être accroché. Et puis, on va dire que s'il n'est pas encore totalement convaincu par la chanteuse, en revanche, il est très vite très séduit par la petite blonde.
En quoi elle va devenir comme cela une interprète idéale pour lui?
Parce que Michel va savoir vraiment se glisser sans rien renier de qui il est lui comme musicien, mais dans la peau et dans le personnage de France Gall. Il va réussir à lui écrire des chansons alors qui correspondent parfaitement à son style, à elle, rythmique, vocal, etc. Parce que France, elle était une des seules chanteuses dans les années 60 qui était capable de chanter comme du jazz. C'est-à-dire qu'elle a un phrasé, un timing, etc. Dans des titres qui étaient sur les EP, 4 titres. En général, sur le 4e titre, elle faisait des morceaux jazz à gogo, etc. Où elle montrait qu'elle était vraiment capable d'être une très bonne chanteuse.
Qu'est-ce qui fait que ce couple fonctionne finalement?
Ben, il y a une espèce de symbiose absolument incroyable. Alors ça doit être dans la personnalité de Michel Berger, parce qu'il avait déjà réussi préalablement une symbiose du même type avec Véronique Sanson. Ça montre que Michel est quelqu'un, et c'est un véritable talent, hein, mais qui arrive à se glisser dans la peau de quelqu'un d'autre comme artiste, mais du coup ça va au-delà de l'artiste, il arrive à faire déborder ça dans leur vie personnelle. Et puis ils avaient un truc, Michel et France, c'est qu'ils allaient tellement bien ensemble, c'était le couple idéal des années 70 à Paris. Vraiment, il y avait des gens, les avaient surnommés les Mimi, parce qu'effectivement ils étaient très Mimi. Michel, c'est quelqu'un qui était totalement incapable, en dehors de la musique, de s'occuper de quoi que ce soit. Il ne savait même pas faire brancher la cafetière. Hein. Parce que Michel, c'est la musique et rien d'autre. C'était un mauvais conducteur. Et France, elle va prendre en main leur vie.
Ne dites pas que ce garçon était fou. Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Et pour quelles raisons étranges, les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Il avait choisi un autre chemin. Et pour quelle raison étrange, les gens qui pensent autrement, ça nous dérange, ça nous dérange. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là.
Nos plus belles histoires d'amour. Jean-Alphonse Richard.
Yves Bigot, dans votre livre, vous dites Michel Berger, il est peut-être mort de stress.
Oui, beaucoup de ses amis pensent qu'il ne s'est effectivement pas ménagé et qu'il était. C'était effectivement un très très grand anxieux, extrêmement perfectionniste, qui voulait toujours tout maîtriser. Aussi, hein, avec un côté un peu démiurge, hein, d'une certaine façon. En studio, hein, il voulait tout, il n'y avait pas une partie instrumentale ou un bout de parole ou un mix qui lui échappe. Et il avait beaucoup d'ambition, hein, pour faire jouer Starmania, parce que Claude Michel Schoenberg, qui était son ami d'adolescence et avec qui il avait fait sa carrière, avait réussi un succès planétaire avec Les Misérables. Et Michel ne comprenait pas pourquoi il n'arrivait pas à monter Starmania aux États-Unis, à Londres, etc. Et il a passé les 4-5 dernières années de sa vie vraiment à se battre pour ça, à pouvoir enregistrer Starmania en anglais, ce qu'il a fini par réussir à faire. Mais ça, c'est quelque chose qui l'a beaucoup, beaucoup déstabilisé. Mais il faisait des tonnes de choses. Il travaillait sur le projet du musée du Quai Branly aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il ne s'occupait pas que de musique, Michel. Il voulait se lancer dans le cinéma. Il était passionné par la politique. C'est quelqu'un qui n'arrêtait jamais, mais effectivement qui était stressé et qui avait déjà eu quelques alertes physiques et cardiaques préalablement.
Qu'il avait caché.
Qu'il avait caché, évidemment. Oui.
Puisque chez Michel Berger et France Gall, on cache tout. On ne parle pas à l'extérieur de sa vie privée, on hésite à se montrer.
Sauf dans les chansons. Tout est écrit dans les textes des chansons.
De leur vie commune, ça va pas très bien, ça craque un peu de tous les côtés. Est-ce que quand il essaie de relancer ce duo avec France Gall, est-ce qu'il y croit vraiment? Est-ce que le couple y croit vraiment?
Ce dont ont témoigné tous les gens qui ont assisté à cet enregistrement et ceux qui y ont participé, hein, les musiciens, Yannick Taub, Serge Perratonner, etc., disent tous que, alors qu'ils ont adoré toute leur vie et toute leur carrière jouer en studio et sur scène avec Michel et avec France, l'enregistrement de cet album en duo était épouvantable. Que la tension entre le couple était terrible, que France finalement n'aimait plus tellement le répertoire que Michel lui proposait, puisque c'est toujours lui qui écrivait, hein, les chansons, paroles et musique, qu'elle voulait co-réaliser le disque avec lui. Voilà, c'est un très mauvais souvenir pour tous ceux qui y ont participé. On peut imaginer, enfin moi c'est ma théorie, en tous les cas, c'est une théorie, hein, que cet album commun était destiné à masquer les problèmes du couple, hein, en montrant justement cette image d'amour parfait. Et d'autre part, est-ce qu'il y avait, ou pas, mais c'est une théorie, est-ce que Michel Berger a voulu faire un cadeau d'adieu à France de la même manière que Double Fantasy était le cadeau d'adieu de John Lennon à Yoko Ono? Alors le parallèle est terrible, puisqu'ils meurent tous les deux. Alors, pas de la même façon, hein, John Lennon assassiné et Michel Berger d'une série de crises cardiaques, mais alors qu'ils s'apprêtent à quitter leur couple et qu'ils s'apprêtent tous les deux à repartir pour des nouvelles carrières.
Comment vous expliquez que, d'ailleurs comme John Lennon, que les chansons de Michel Berger et de France Gall soient encore aussi modernes et dès qu'on les entend, voilà, il se passe quelque chose?
Il souhaitait faire de la bonne musique. Et la bonne musique, ça ne vieillit jamais. Et tous les deux avaient une exigence dans la qualité musicale, la qualité de la réalisation de leurs disques, du mixage, etc., qui était très très importante. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas cédé à des facilités de production, hein, par exemple d'époque, qui parfois font que la production des années 80, hein, notamment avec certains sons de synthétiseurs ou de boîtes à rythme, aujourd'hui est absolument insupportable et qui fait qu'il y a beaucoup d'artistes de ces années-là qu'on ne peut plus écouter. Ça n'est pas le cas de Michel et de France, justement parce qu'ils aimaient profondément leur musique. D'ailleurs, c'est un sujet de beaucoup de leurs chansons, la musique elle-même. Hein.
Merci Bigot.
Merci beaucoup à vous.
Ils ont des idées plein la tête. C'est des idées pour faire la fête. Et leur langage qui ne veut rien dire les fait pleurer.
Music.